Celui que j'ai le plus écouté, c'est celui avec Edith.
Ah ouais?
Oui.
C'est comme le deuxième.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'étais fan d'Edith.
Quelle époque. On la salue, Edith.
Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchy, musique Dominique Hamel.
Je suis Cédric Fernandez, improvisateur d'origine française et on va dire à l'aise dans le monde parce que l'impro c'est la vie, ça change des vies, c'est les principes qui font que c'est possible. Sont des principes
demandé
qui
de te présenter.
Oui, mais parce que mais l'impro c'est ma vie, ça fait partie de mon identité maintenant. Ouais, je veux dire, okay. Je pourrais pas sinon qui je suis. Je suis un homme de 40 ans, brun aux yeux bleus, barbu.
Beau gosse à l'impro.
J'ai d'autres noms à citer pour ça, mais passionné et ouais, aimez-vous.
Non mais. Tant qu'il y a des gens qui veulent aller voir des pages sur Facebook.
Ah oui, vous allez voir donc la page de la Compagnie Improvisation Alternative. Compagnie Improvisation Alternative, c'est la CIA, version française. Vous pouvez aller aussi voir ma page personnelle, mon site personnel, cedric.world, le world comme le monde. et puis voilà, il y a quelques
Memory
articles
aussi.
De blog. Et Memory, spectacle phare. Memory qui sera un petit peu redessiné pour la saison prochaine, pour justement le rendre plus accessible, un peu mieux pitchable. Pour que les gens viennent le voir. Friendzone avec Hélène Pelletier, à qui je pense tout le temps, il faut qu'elle le sache. Et j'espère que tu ne couperas pas ça, parce que j'ai envie qu'elle sache que je pense tout le temps à elle.
C'est la plus longue présentation.
Merci. Et vraiment, de tout fond, ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Aimez-vous, vraiment.
Là, j'ai peut-être déjà coupé.
Merci.
Donc, ça fait longtemps que je veux faire un podcast avec toi. Et là, on le fait devant un public. Salut, Gabriel.
Salut. Un grand public.
Ouais. Ah, on a aussi... Attends, c'est quoi ton nom?
Catherine.
Catherine au bar pour les boissons. Donc, Cédric, ça fait quand même 4-5 ans qu'on...
On s'est rencontrés et on s'est rencontrés...
À la BIP?
À la BIP.
Oui.
Il y a 4-5 ans et on s'est officiellement vraiment rencontrés en octobre 2016 lorsque tu es venu à Bordeaux.
Puis après, t'es venu chez moi.
Et oui.
Ah ouais, on a comme fait un doublé chacun chez l'autre. Oui, quand même intense, hein? Mm-hmm. C'est... j'en garde de bons souvenirs. Donc, Cédric, toi, là, t'es en ce moment au festival Cube. Le Cube. Mm-hmm. Ah, faut savoir. Le Cube à Montréal. T'es venu pour ça, faire Memory.
Oui.
Mais sinon, tu es à Lyon.
Oui.
Mais originaire de... Mais non. Originaire, de façon improvisationnellement parlant, de Bordeaux.
Oui.
Mais sinon, Paris.
Oui.
Oui. Tout ça.
C'est ça.
Et là, attends, là, c'est parce que ton cheminement, il est assez complexe. Tu faisais quoi avant l'impro?
Alors, j'ai eu quelques vies avant ça. On va dire, si ça part de la fin des études, j'ai commencé en tant qu'ingénieur en chimie et physique. Et après, mon premier métier, j'ai travaillé au CNRS, Centre de Recherche Français. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie, en peinture industrielle, sur la sécurité des sites à haut risque chimique en France.
Les gens prennent des notes en ce moment.
Ensuite, je suis revenu l'éducation et la recherche dans l'école où j'avais eu mon diplôme pour prendre en charge le système de management santé-sécurité au travail et management de l'environnement.
Ok.
À quoi s'est ajouté la qualité ensuite. J'ai passé un concours, je l'ai eu, donc j'ai été titularisé à mon poste. J'ai été fonctionnaire donc à l'université. Puis les écoles d'ingénieurs ont fusionné et j'ai été catapulté chef de tout un tas de petits mondes sans avoir passé le moindre test psychologique. Ce qui a été finalement une erreur, puisque je me suis retrouvé dans un open space à devoir rédiger des procédures. Ça ne me plaisait pas. Et là, l'impro est arrivé dans ma vie. D'abord en amateur, mais ouais. Ça a cliqué instantanément, ce qui fait que j'ai démissionné de la fonction publique.
Genre atelier, quelques matchs, c'est la liqueur, c'est
oui,
ça
oui, ouais. À Bordeaux. Ouais. Didier Jean-Jean, mon premier maître à la liqueur.
Bon, salut.
Et puis, ben, voilà, après, comme on ne vit pas tout de suite de cet art-là, j'ai eu...
Je te dirais que... On ne vit pas vraiment de cet art-là. Ceux qui le font d'arrache-pied.
Uh-huh. Et on travaille fort.
On en parlera.
Fait que là, pendant quelques années, j'étais un tiers de mon temps encore à donner des cours dans diverses universités en France. Un tiers de mon temps auditeur pour un équipementier sportif dont je ne citerai pas la marque, parce qu'il fait travailler des enfants, à faire des ouvertures de magasins, m'assurer en tout cas que le public était bien accueilli et que les conditions de sécurité étaient réunies dans les magasins pour les ouvertures. Et puis un tiers de mon temps, l'impro, qui a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que l'évidence devait être suffisamment forte pour que je fasse que ça.
Mais, OK, là, c'est ça. Jouer le match, donner des ateliers, tout uh-huh. ça. T'as travaillé aussi au sein de la BIP, qui est la Ligue Pro de Bordeaux.
C'est ça.
T'as travaillé avec, en un seul mot, qui est aussi considéré comme c'est une troupe pro de Bordeaux. Et après, un jour, il y a quelqu'un qui t'a appris comment retenir 20 mots. Et t'as commencé Memory. Attends, laisse-moi l'expliquer pour les gens qui ne savent pas si je suis capable. Tu me diras si c'est bien.
Allez.
Donc, t'arrives, t'accueilles le public. Tu dis, je vais mémoriser 20 mots et je vais les faire dire à mon partenaire de jeu qui s'en va maintenant à l'extérieur pendant que vous allez me donner les 20 mots.
Uh-huh.
Mais pas nécessairement dans l'ordre. Donc, les gens crient des trucs « Cheval en quatre! » Puis là, ils sont notés, mais toi, tu les vois pas. Il y a quelqu'un qui les note, toi, tu les mémorises. Mm-hmm. Et après, s'ensuit une impro de une heure et demie sur une histoire où les mots seront placés dans l'ordre. Et souvent, tu vas les faire dire à ton partenaire de jeu.
Oui.
Mais des fois, tu les dis.
C'est de plus en plus rare.
Oui.
C'est de plus en plus rare, mais voilà.
Puis habituellement, le partenaire de jeu comprend assez rapidement. Puis quand il sait que tu essaies de lui faire deviner un mot, et il comprend le mot, il tourne autour pendant 15 minutes. Mais ça, ce spectacle-là, t'as comme, tu me dis, tu as appris la technique.
Le jeudi.
Puis le soir même.
Deux jours après.
T'as fait le spectacle seul?
Oui, alors je vais avouer quelque chose que Manu ne sait pas, mais il va peut-être l'apprendre en écoutant ce podcast. Et c'était au mois d'août, il organisait le championnat du monde de Molki à Bordeaux.
Ok, ok.
Et il m'a dit, toi tu fais de l'impro, viens avec tes copains, là, faites-nous un match d'impro. Et j'ai dit ok, sauf qu'en plein mois d'août, il n'y avait plus personne, tout le monde était réparti en vacances partout. Et le lundi, il m'appelle, il me fait alors et tout. Alors je fais ça va être compliqué pour un match, mais je vais faire un truc. J'ai un bout de stand-up et j'avais rien en fait. Pardon, Manu. J'avais rien. Le jeudi, j'étais dans une formation où on apprend une technique pour retenir 20 mots. Et là, je dis ok, c'est ça que je vais faire. Et je jouais le samedi devant 140 personnes à retenir 20 mots et à raconter une histoire debout comme ça devant les gens. Premier memory.
C'est très drôle. Mais c'est aussi l'accident qui fait que... c'est souvent des accidents qui donnent des belles créations. Là, tu t'es retrouvé à... là, t'es à Lyon. Donc, tu joues régulièrement à l'Improvidence.
Tout à fait.
Aussi à Bordeaux
Bordeaux, Avignon, ouais. Lyon pour les trois Improvidences, ouais. Et puis partout où le spectacle est acheté, vendu, ce qui fait que on l'a joué une paire de fois ici.
Oui, à Montréal, Saint-Eustache,
Valleyfield.
Ah oui, les grandes régions, les points d'intérêt de Montréal. Donc, tout ça, puis là, cet été, t'as fait Avignon.
Oui, Festival d'Avignon pour la deuxième fois.
Memory Kids!
Oui, version pour les enfants.
Ça prend bien les Français pour dire Kids.
Mais c'est parce que... c'est vrai. Et on vous remercie d'être les gardiens de la langue française.
On n'est pas les gardiens, on veut juste essayer de pas crouler sous 330 millions de...
Oui, l'enclave, vous êtes le village d'Astérix local.
Clairement.
Et kids parce que le concept plaît, les gens qui viennent voir ce spectacle généralement capotent à la fin. Hey, comment c'est possible, vous racontez une vraie histoire, il y a les mots et tu les fais dire et tout ça. Si bien qu'un jour on nous a dit, c'était des amis qui faisaient une animation dans une école primaire en France, primaire,
voilà. Ça marche.
Et en disant voilà, c'est un événement un peu spécial, ça va bientôt être Noël, on va faire un des dons de jouets, est-ce que vous pouvez venir faire un spectacle un peu plus pour les enfants dans la thématique, et puis voilà, pour animer un petit peu cette soirée. On l'a fait. Et les enfants étaient fous parce que c'était une histoire pour eux. Ouais. Mais les parents étaient encore plus fous parce que eux, ils s'attendaient à s'ennuyer, à dire bon voilà, j'amène mon enfant, on va regarder notre portable pendant notre cellulaire pendant tout ce temps-là, et puis on va s'ennuyer.
Ouais, comme tous les spectacles pour enfants.
Non, pas tous. Mais tu vois l'idée. Alors ouais. Que là, les parents étaient complètement malades plus que les enfants, et on s'est dit il y a un coup à jouer là. Ce qui fait qu'on a fait cette version-là en festival pour tester, et voilà, succès.
Ah ouais? Ben, et puis le public jeunesse, c'est tellement un public que je te dirais pas cru, mais je veux dire, parce que je traduis, toi, je traduis de l'anglais, parce que dans ma tête, je parle en anglais des fois, parce que je suis submergé par l'anglais, mais je te dirais raw, tu sais, dans le sens où. Très.
Pur, naïf.
Pur, ouais, c'est ça. Ou hey Maxime, tu te tais, hein? On enregistre.
Ouais,
on était supposé d'enregistrer le podcast avec Maxime avant, mais il ne s'est pas levé. Et là, je me chicane sur l'autre podcast.
Il a l'air frais.
Donc, et c'est ça. Quand ils aiment pas, ils regardent partout.
La sanction est immédiate.
Ouais.
Ce qui donne un autre style de jeu. Et, ouais. Et c'est un biais qu'on s'appliquait déjà à éviter dans la version tout public, qui était, comme il y a des mots, c'était de partir trop dans le texte et de ne pas bouger, de rester trop sur place. Donc déjà, on travaillait fort à ne pas le faire dans la version pour adultes, enfin pour tout public. Pour les enfants, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, si c'est statique pendant 2 minutes... On est décrochage du public, ce qui fait que ça nous a permis de développer un jeu
semblant de passer des boîtes.
Mais et puis très visuel, encore plus d'interaction puisque il y a une connexion permanente du fait de devoir deviner les mots. Il y a cette connexion permanente avec le public. On joue autour de la devinette, du travail qui est fait pour que l'histoire reste cohérente, pour insérer le mot qui vient, et puis après de rester très émotion, expliquer les émotions et rester très visuel pour que les enfants adhèrent, même s'ils ne comprennent pas. Comme dans les Pixar, Disney, DreamWorks, ouais. Les adultes comprennent des choses que les enfants ne comprennent pas.
Ouais, ouais, ouais. Ben
voilà, c'est ça.
Ou qu'on pense qu'ils ne comprennent pas.
Eh oui, enfin, ils sont raw.
Ils sont raw. Non, c'est pur. Mais oui, il y a quelque chose qui est gratifiant là-dedans aussi d'aller chercher un peu, d'ouvrir la porte à la culture quand même pour des enfants. Mm-hmm. Parce que des fois, les tout jeunes ici, on les envoie voir une pièce de théâtre à l'école, puis la pièce est lourde, puis tout ça, puis tu fais, ouais, faut peut-être commencer par quelque chose de plus accessible.
Et on a cette flexibilité-là, puisque on connaît cet univers. Avec le travail qui est fait aussi avant, ben pour les structures des histoires, les structures narratives, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va être intéressant, quel élément on peut insérer qui va à la fois nourrir l'histoire, nous aider à nous rapprocher du mot et rester intéressant visuellement dans le décor qu'on crée de toute pièce. Voilà. C'est notre effort.
On est au Théâtre Sainte-Catherine en ce moment, il se passe des trucs, mais il se passe toujours des trucs dans le podcast, de toute façon. C'est vrai, Gabriel?
Oui. On l'entend moins quand on l'écoute.
Oui, c'est vrai qu'on l'entend moins qu'en vrai. Là, Memory, c'est ton spectacle. Memory Kids aussi. Mm-hmm. C'est tout?
Non.
Non?
Non, non. Il y en a un, une création cette année. Une création avec ma formidable partenaire Hélène Pelletier.
Oh la, salut.
Hey. Hey. Et puis, c'est un. On était parti sur un blog improvisé, une espèce de mise en abîme dans laquelle on était deux comédiens,
oui, les
colocataires,
ouais.
Qui arrivaient à Avignon pour percer, pour devenir célèbre. Et puis on joue nos propres rôles.
Oui, oui, d'autofiction.
Voilà, exactement.
Ah ouais, moi,
et
ça
puis,
m'a allé
au bout, là. C'est ce qui était fantastique. On voulait faire une série improvisée, comme ouais. Une série télé, mais une série théâtre. Bon, après, le public ne suit pas vraiment forcément ça dans la longueur, ce qui fait qu'on s'est aperçu que l'épisode qui avait le mieux marché, c'était l'épisode final, où dans la longueur du spectacle, on joue notre relation. Et ça sert de prétexte à s'entraîner, à improviser.
Ouais.
On est là un peu comme dans une série télé type Friends, où tu as le public qui assiste au tournage. Là, on a le public qui assiste à notre vie en colocation. Et dès qu'on a un petit temps de répit, on dit, tiens, viens, on s'entraîne. Clac, on joue des petites impros façon cabaret.
Okay.
Et puis, il y a notre relation qui se tisse sur plein de petites impros qu'on joue.
Okay,
tout ça,
okay.
Jusqu'à ce que, évidemment, ce qui intéresse tout le monde, c'est « Mais c'est quoi la nature de votre relation ?» Vous êtes colocataire, ouais. Une fille, un garçon, y a forcément quelque chose. Et je n'en dis pas plus.
Mais vous le jouez souvent ?
On a joué 4 épisodes entre janvier et avril. Et là, on est reprogrammé sur l'Improvidence Lyon pour toute la saison.
Ah, cool.
Une fois par mois.
Mais là, puis aussi, t'es un peu mercenaire de l'impro, là, dans le sens où... non, mais je veux dire... On dit « Hey, tu viens jouer ?» Puis tu fais « Oui,
oui. !»
Mais non seulement ton spectacle, mais tout juste après ton spectacle, ici au Cube, tu as joué avec les
architectes.
Ben, tu vas jouer le dernier spectacle,
le cube.
Et c'est ça, tu es appelé souvent à aller jouer dans d'autres trucs.
Oui, c'est à l'Improvidence, c'est c'est un nid d'improvisateurs, et ça foisonne d'idées en permanence.
T'as déjà 3 colocs improvisateurs, non?
Oui, voilà, ouais. C'est ça, j'habite dans une colocation. Ma vraie colocation, elle est à Lyon, et
ouais.
C'est avec des improvisateurs, et les idées fusent en permanence. Donc oui, on joue. Et puis en disant oui comme ça, l'année dernière, parce que j'ai passé une année à être nomade, tout 2018,
oui, oui, oui.
J'ai un peu voyagé.
C'est vrai, ça.
Et en disant oui, ben, je suis allé jouer en Grèce, en
oui.
Anglais.
En Grèce, Mount Olimprov?
Mount Olimprov, c'était la third edition. Et puis j'ai rencontré là-bas Jamie, une américaine New York, qui m'a dit mais ton show il est cool,
oui.
Viens jouer à New York. J'ai dit
t'allais jouer au Pit.
Oui, je suis au Pit, là
oui.
Où tu as joué peu de temps avant. Tiens, on se suit. Et en disant oui, bah voilà, c'est comme ça. Premier festival d'Avignon, ça s'est passé comme ça. Et une opportunité, ton show il devrait aller à Avignon. Ouais, mais c'est dans 6 mois, j'y suis même pas allé en tant que festivalier, jamais. Ben ouais, mais j'appelle un copain, il lui reste un créneau, il l'appelle, il est jeudi, 23h.
J'ai failli embarquer.
Ben oui.
Ouais.
Ben oui. Merci Thomas Debray, créateur de l'Improvidence.
C'est sûr qu'il écoute.
Mais il est et puis fascinant de un facilitateur, un prophète, un ambassadeur de l'improvisation comme on n'en fait pas. C'est le meilleur en France. Merci Thomas, je t'aime.
Vous voulez écouter le podcast avec Thomas? Je pense que c'est saison 1 ou 2.
Hey.
OK, là, tu sais ce qui s'en vient dans le podcast.
Ah.
Non.
Non.
Non?
Non.
T'en as juste écouté un.
Pas d'impro.
Non, on fera pas d'impro. mais le podcast, c'est aussi le but, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on aimerait faire.
Uh-huh.
Je veux dire, soit où est-ce que tu amènes Memory si on arrive avec une valise pleine de cash et toutes les ressources sont à ta disposition, ou encore... t'as déjà tout fait avec Memory, et c'est quoi le truc d'après, ou t'aimerais creuser, ou encore sans limite, je veux dire, j'ai envie de jouer dans l'espace, tu sais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on aimerait faire?
Il y a un travail... Pour moi, ça dépasse le côté purement artistique parce que Memory, depuis le temps qu'il existe, je m'éclate. Je crois qu'il y a plus de 60 ou 70 improvisateurs dans le monde qui ont joué Memory, qui ont été invités sur ce spectacle. Toutes les personnes que j'aimais, je les ai invitées. Tu as été le quatrième invité.
Ah, il m'aime en quatrième.
Parce que, opportunité. Notre premier invité, c'était en juin 2016, Sébastien Couton. Deuxième invité, Jenny Ann Walker, en septembre 2016. Tu es arrivé en octobre, tu étais le troisième. Avec Dom,
ouais.
Voilà, donc tous les improvisateurs pour lesquels on avait un immense respect, on s'est dit, on demande. Hein. Au pire, ils nous diront non, et c'est très rarement arrivé. Ce qui fait que...
J'aimerais que tu nommes les gens qui ont dit non.
Ça n'a jamais été un nom formel. C'est des gens qui ne m'ont jamais répondu. Il y en a un qui s'appelle, je vais juste dire son prénom, il s'appelle Arnaud, mais on ne saura jamais lequel.
Okay.
Est-il français, québécois? On ne sait pas.
Ah ouais.
Parce qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent maintenant. Sachant que Arnaud a déjà accepté, c'était Arnaud Joyer, et c'était fantastique. Et on l'a
ok, au moins tu nommes celui qui a dit oui.
Ouais, il a dit oui et il était fantastique. Quel homme.
Arnaud. Fils? Non, ok.
Fait qu'en fait, tu l'as dit. Il y a la partie spectacle, mais à côté de ça, moi, tout m'intéresse. Le match m'intéresse, tous les formats m'intéressent. Assurer la promotion de l'improvisation partout, ça, on n'en a pas encore entendu parler, ça aussi, ça m'intéresse.
Oui, parce que tu as quand même une part de... Ben, tu produis Memory, mais tu as une petite fibre producteur.
Oui.
Là. Ben,
oui, oui.
Grosse quand même.
Oui.
Non, mais je veux dire, moi, je suis venu avec... Les productions d'Instab, si c'est toi qui nous accueillais, c'est toi qui nous produisais. T'as accueilli la LNI à Bordeaux, Avignon et
Impo,
ouais, en collaboration avec
Benjamin de Chevalier de l'Imaginaire et
tout. Ben peut-être aussi. Je veux dire, je reviens avec les prémices un peu fofolles de le Conseil des arts de l'univers te demande de promouvoir l'impro et te demande de produire, je sais pas moi, 5 spectacles qui vont redéfinir...
J'y vais.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? Là, avec l'expérience que j'ai maintenant, je soigne la communication. Parce que pour le public qui ne connaît pas encore l'impro, il y a des clichés. Et il faut leur donner envie de venir malgré ces clichés-là. Et curieusement, ce n'est pas en leur expliquant ce que c'est qu'ils vont venir. Memory, figure-toi, c'est le spectacle le plus difficilement pitchable du monde de l'impro. C'est-à-dire, les gens qui sortent sont malades. Ils me disent « tu mémorises un mot !» Je fais « c'est écrit ».
«
Ouais, tu l'as fait dire ton invité !» C'est écrit. « on te les donne dans le désordre !» C'est écrit, c'est dans le pitch que t'as lu quand t'es venu.
Ouais.
Mais les gens, ils percutent que quand ils l'ont vu.
Ouais.
C'est quand même.
Faut trouver
fou,
le pitch d'ascenseur.
C'est finalement, tu vois, c'est juste une question d'habillage, d'emballage. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'improvisation, ce qui compte, si on veut vraiment être un bon ambassadeur, c'est pas tant d'expliquer ce que c'est. Ils verront, ils vont expérimenter et ils vont trouver ça fou. C'est sûr. Par contre, faut l'emballer de sorte à ce qu'ils viennent le voir presque. Enfin, je vais employer un gros mot parce que j'aime pas ça, c'est pas vraiment ça, mais ça peut s'apparenter un peu de manipulation, mais c'est comme de la publicité, une forme de, avec des gros mots dans le milieu artistique, mais marketing.
Ouais.
Pourquoi? Juste pour parler aux gens dans le langage qu'ils parlent eux. Pas essayer d'être élitiste et de leur dire, si vous n'êtes pas venu, tant pis pour vous, c'est parce que vous ne comprenez pas. Et c'est à nous de rendre l'art accessible.
Oui, complètement.
Alors, on transmet des émotions, certes. Il y a une part artistique. Si on se sent que les épaules de jouer et d'être parfait et d'être bien dans l'interprétation et qu'on a des ressources pour faire que ça, tant mieux, très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, si l'art, on peut en vivre, c'est parce qu'il y a des gens qui s'occupent de faire des passerelles entre le public, comment on va aller le chercher, et toi qui vas pouvoir t'exprimer. Et, voilà. Et moi, on va dire... je suis un peu à tous les étages dans cette chaîne-là. J'adore jouer, évidemment, parce que je rencontre des gens.
Ben, la plupart des producteurs d'impro, on va en parler avec Maxime dans l'autre podcast, mais c'est des gens qui veulent jouer,
mais oui, passionnés.
Qui produisent.
C'est des passionnés. Thomas Debray est improvisateur aussi.
Ben oui, c'est ça. Moi, je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir une co-directrice qui ne joue pas. Et qui est passionnée. Donc, pour moi, c'est un plus. Parce qu'elle, elle veut que ça fonctionne. Moi, je veux que ça fonctionne parce que j'ai envie de jouer. Elle veut que ça fonctionne parce qu'elle veut que ça soit bon.
Ben oui.
Ben, moi aussi. Mais de plus en plus, ben là, Maysoon, avec qui on va parler tout à l'heure, mais c'est aussi son cas.
Uh-uh.
Donc, et de plus en plus, peut-être aller chercher des producteurs qui...
C'est ça. Des producteurs et des gens qui savent aussi, encore une fois, parler le langage des gens qu'on veut initier ou du moins ouais. leur donner cette première approche. Et si, voilà, tu me donnes les moyens illimités,
ouais.
je continue à jouer ouais, parce, ouais. Que c'est, parce que j'adore ça et
bah
que
oui.
ça me passionne. Pas le choix. Et que les principes qui sous-tendent l'impro sont des principes
de
qui
plein
sont
de mots devenus... à retenir encore.
Mais oui. J'ai pas fini. Non, on ne saturera pas. Et mais je voilà, c'est prendre un bâton de pèlerin, peut-être un peu de pionnier, et d'aller chercher les gens, non pas en essayant de les convaincre qu'on détient une vérité, mmh. mais simplement, même peut-être avec un petit peu d'astuce, simplement les amener à rencontrer l'improvisation, et après ils se font leur avis.
Mais moi, ce que je veux faire, c'est leur présenter, trouver une façon de leur présenter la pluralité des genres en impro. Parce qu'ici, ben, encore plus qu'en France, l'impro, c'est très, très... Bon, on en parle souvent dans le podcast. C'est... quand tu parles aux gens, une personne sur deux va faire « Oui, je connais l'impro. J'en ai joué au secondaire. » Ou « Je suis allé voir ma nièce la semaine passée.
Ouais. »
Et c'est ça. Puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est... Tu dis pas ça à un professionnel de soccer. Tu dis « Oui, oui, mon neveu joue. Je sais c'est quoi le soccer. » Tu fais « Non, c'est... t'as, je sais pas, moi... là, j'ai, nommez-moi un nom de grand joueur de soccer.
Zinedine Zidane.
Les mots du français.
David Beckham. Allez, il a joué à New York. Ouais.
Didier...
Ah, oui, mais...
Messi, oui, voilà. Ronaldo... Didier Drogba! Non? Donc, non, mais, tu sais, c'est ça. Et on reconnaît, mais là, c'est ça. Ici, ça a tellement été accessible que la vibe, à la base, c'est amateur.
Ouais.
Puis il y a une grosse communication. Comme tu dis, t'as vraiment raison. La communication est à faire. Puis c'est pas une mauvaise chose que ça soit accessible comme ça.
Non.
C'est pas une mauvaise chose que toutes nos nièces et neveux jouent. C'est juste... Faut présenter aussi la pluralité des choses, comme le Cube le fait en ce moment avec tous les spectacles qui sont présentés, comme ça se fait dans la plupart des festivals internationaux qui ont en Europe.
Mm.
Aux États-Unis, ils sont un peu même dans le même créneau. Tu veux dire, moi, je vais aux États-Unis dans un festival, le festival devient international parce que je suis là. Mais sinon, c'est du monde qui se rejoignent, présentent leur petit spectacle, puis ils font « OK, on se revoit l'année prochaine », puis c'est quand même entre eux. Puis c'est quand même des trucs tout un peu des dérivés de Harold. Tu sais, le Harold pour les Américains, c'est le match pour les francophones. Ouais, OK. Puis comment tu t'y prends pour les communications?
Ça prend de s'ouvrir vraiment l'esprit pour éviter de partir de son propre point de vue. Parce que nous, on est des passionnés. Donc, l'impro, on connaît, ce qui fait qu'on en parle avec un vocabulaire qui est un vocabulaire d'initié.
Mmh.
Et qui ne vibre pas de la même façon pour les gens qui ne connaissent pas du tout le principe. Et je pense qu'il y a un deuxième truc dans ce que tu as dit, c'est-à-dire, il y a, effectivement, c'est très accessible. Et c'est pour ça que l'impro, c'est fantastique, c'est que ça prend, comme au soccer, tu disais, ça prend deux cartables, deux sacs dans une cour de récréation,
mm-hmm.
ça fait un but, et on dit on joue au soccer, et personne dit « Arc !» c'est pas les dimensions, ça n'existe pas.
On va pas y croire.
Non, voilà. Et comment on fait? Et à quelle hauteur? On dit qu'il y a encore but. Voilà. Donc, et on appelle ça soccer et ça dérange personne.
Ouais.
Mais pour voir un match Barça-Real, ok.
Ouais.
Là, tu sais que ça prend un peu de travail et que voilà, il y a ces niveaux-là. Et en impro, je pense que le fait que ce soit très accessible, et que ça serve aussi d'antichambre. Pour le théâtre classique, comme l'écriture plateau,
mm-hmm.
pour comme système de création, on n'a pas rendu suffisamment encore visible le professionnalisme et le travail que ça demande pour produire un spectacle, enfin, produire, réaliser et jouer un spectacle bluffant. hier, alors je veux pas, j'ai les enfants de Molière hier,
ouais.
Le cube, j'étais vraiment scié, mais vraiment. C'est ça, et Impro Mystère derrière, c'est d'une fluidité. Enfin, je veux dire, oui, en amateur, on va rire de toute façon, et on va vivre des choses, c'est sûr. Mais atteindre ce niveau-là de maîtrise, quand on sait le travail que ça demande d'être capable d'être fluide dans un phrasé particulier qui respecte les codes d'un auteur. Et quand même, ouais. Ça, et on le met, et c'est pas, et c'est ça qu'on ne met pas suffisamment en valeur pour dire, ok, c'est accessible, tout le monde peut y avoir accès, mais regardez, c'est moche ce que je veux dire, parce que c'est pas comme ça que je me le représente, mais pour le grand public, il y a une élite.
Ouais.
Comme il y a une Ligue 1, il y a la première ligue, et tu peux continuer à aller voir ton club local, mmh. Et tu prendras un plaisir différent à le faire, mais ça, là, ça demande du travail, et tu peux payer un ticket pour aller voir ça, parce que tu vas en avoir pour ton ticket.
Ben, c'est ça qu'il faut faire comprendre.
Hein. Eh oui.
Moi, je suis allé voir Alexandre Mercier hier, des Enfants de Molière. Je lui ai dit... Parce que moi, je l'ai coaché.
Ouais.
Je l'ai vu jouer. Puis c'est la première fois que je voyais ce spectacle-là qui roule depuis quand même plusieurs années. Puis ça faisait comme une couple d'années qu'il l'avait pas fait. J'ai dit, moi, j'adore voir des gens essayer des choses en impro. Mais ce que j'adore, c'est aussi... arrêter de voir les gens réfléchir. Et tu l'as dit, c'est fluide, c'était fluide. Tout coulait comme si... il était toujours en réaction. À lui-même, il était en réaction. Je veux dire, à un moment donné, il prend l'épée à l'envers. Hein, qu'est-ce qui arrive quand je prends l'épée à l'envers? Ben, ça me coupe! J'y avais pas pensé avant, mais je le sais. Donc, c'est... Pour moi, c'est ça l'impro. Je veux dire, t'es tellement dans la réaction... Que l'auteur a pris le bord, puis l'auteur, c'est tes réactions. Et, bon, bref.
C'est une disponibilité à chaque instant qui est aussi le résultat d'un travail. C'est, dans la vie de tous les jours, on n'est pas disponible comme ça. On serait, on serait des pigeons. On dirait oui à tout. Tiens, file-moi ta carte de crédit. Oui.
Attends, mais, le code, mais oui. On est disponible en réaction. Je veux dire, donne-moi ta carte de crédit, tu vas faire... Qu'est-ce que tu veux faire avec, ou je sais pas, mais il y a une disponibilité
dans un jeu qui va être le jeu de notre vie à nous,
ouais.
Pour se rendre disponible dans la peau d'un personnage, ça prend ça d'avoir développé des arcs réflexes dans des catégories qui sont pas les nôtres. C'est un vocabulaire très ésotérique.
Mais tu vois, moi,
t'es obligé de comprendre la psychologie de quelqu'un qui n'est pas toi et de la rendre valable et crédible sur scène, alors que toi, tu n'aurais pas réagi comme ça.
Oui, sauf que habituellement, les codes, on s'en va me faire ici, les codes sont déjà là dans ce que tu as installé comme personnage pour répondre. Donc, si tu ne fais pas la réponse des codes que tu as placés, ça ne marche pas.
Et voilà. Et ça, là, tout ce travail-là, il se voit. En plus, quand tu connais les comédiens en dehors ou que tu les as déjà vus jouer, incarner d'autres rôles, tu vois la somme de travail que ça représente de jouer de façon crédible quelque chose dont tu sais que c'est composé dans l'instant. C'est fou. C'est fou. C'est malade, l'impro. Ça ne s'assèchera jamais. C'est un moteur de création de dingue. Allez voir de l'improvisation. Initiez-vous avec des gens qui vont vous faire ça dans un cadre dans lequel ça va vous mettre à l'aise, que vous allez comprendre que tout le monde est capable. Vraiment, ça a changé ma vie. Je veux dire, ça a changé ma vie parce que les principes qui gouvernent ça sont des principes qui m'ont fait rencontrer des gens, me sentir mieux dans ma vie, être plus au carré avec l'écoute de moi-même, l'écoute des autres. Tu comprends tout un tas de choses. Il y a des erreurs que tu arrêtes de faire quand tu es disponible.
Ah, mais je le sais, parce que pour te côtoyer depuis quelques années, t'improvises ta vie. Là. C'est tellement... Non, mais je veux dire... T'arrives à quelque part, quelqu'un fait « Hey, tu veux faire ça? » Puis là, tu fais « C'est une opportunité! » Puis là, tu y vas, puis là « Ah, je fais ça depuis 2 ans maintenant! » Puis là, tu fais « Pourquoi? » « Ben, quelqu'un me l'a demandé. » Non, mais...
C'est vrai.
À chaque fois que je donne des formations, moi, je dis « On fait avec ce qu'on a.
Ben, »
Je veux dire, t'as beau avoir l'idée que t'as dans la tête, si l'autre dit quelque chose qui concerne pas cette idée-là, tu fais avec ce que t'as. Et là, toi, tu fais avec ce que t'as constamment. Je veux dire, dans la dernière année, j'ai essayé de savoir où t'habitais. Ping-pong, ping-pong. tu sais, et tant mieux. Puis là, tu es dans la, la colocation des improvisateurs.
Ah, oui, voilà. Pour le moment.
Ouais. La LNI est de passage, je fais « Ouais, je vais produire 3 spectacles. »
Sur 9 en France.
Ouais, c'est ça. Je fais « Ah, opportunité! Ok, cool! » Puis après, tu sais, tu prends la balle au bon, tu fais « On verra. » Tu sais, il y a des gens qui vont vraiment peser les pour et contre pendant des semaines et des semaines. Toi, tu fais « Ben, il y a des pour, il y a des contre. Hein? »
Ouais.
Puis au bout du compte, on verra ce que ça donne.
On verra ce que ça donne. Et c'est, ça peut sembler dingue, là, comme ça. Et puis, à écouter, vu que je suis bien dans ma peau,
ouais, oui.
ça va. On se dit, bah ouais, mais voilà, c'est-à-dire que ce type-là, il sait faire des choses que nous, on ne sait pas faire. C'est faux. C'est faux. J'échoue beaucoup. C'est-à-dire que dans ces trucs de disponibilité, si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné du tout. Ma vie aurait été différente si j'avais, si mes plans s'étaient passés comme j'avais prévu.
Mais t'es chou et tu réussis beaucoup.
Ah oui, mais ça prend, c'est pas, c'est 5 échecs pour une réussite.
Enfin, mais moi, selon moi, c'est les deux techniques. Là, c'est un peu macabre comme image, mais mitraillette ou sniper.
Mais...
Je veux dire, il y a des gens qui se préparent pendant des années à faire un truc et ils visent ce truc et travaillent très fort. Habituellement, avec tout le travail qu'ils ont mis, ils vont réussir. Il y a des gens qui mitraillettent et ils font comme « Ah! J'en ai 4 sur 5! Yeah! »
et on peut
Mais des projets, hein, pas des gens.
Bien entendu.
Ah, c'est ça!
Sachant que ça peut quand même fonctionner, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment là, au début c'est sûr l'euphorie et la passion fait que ça tire dans tous les sens, t'es pas très expérimenté et même si t'as envie de viser juste, globalement commence par un fusil à pompe.
Ouais.
Ça, t'es sûr de pas trop rater la cible. Mais qu'avec l'expérience.
On parle de cible, c'est des projets
d'impro. Des projets, des objectifs.
Des vieilles clôtures,
voilà,
comme des bouteilles.
Loin de tout être vivant, puisque nous respectons aussi les arbres et les animaux.
Oui, voilà.
Fait qu'au bout d'un moment, quand même, tu acquiers un peu d'expérience que tu et que tu arrives à la fois à faire plein de choses en même temps et à être très précis. Et puis t'échoues pas sur les mêmes choses. Si t'as échoué une fois que tu t'arrêtes là, le prochain essai, tu échoueras un petit peu plus loin peut-être. Mais si t'échoues plein de fois, au bout d'un moment, t'échoues sur d'autres choses, plus sur ce sur quoi t'as déjà échoué, puisque je vais citer Nelson Mandela, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Bon, ben moi j'ai beaucoup appris.
Bravo. Et tu peux citer Wayne Gretzky aussi.
De hockey.
Il dit je manque 100% des buts que je lance pas.
Eh oui, c'est ça.
Ouais, à peu près.
C'est ça.
Ouais.
Belle philosophie. Donc, il faut essayer. Il faut essayer. Puis des fois,
bon,
ça.
Ma réplique a cassé ta belle réplique.
Pas du tout. J'arrêterai de citer Mandela.
Non, c'est beau. C'est beau. Merci, Cédric.
Et merci, Fred. Je t'aime.
Moi aussi.
Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.